Nous sommes en train de revisiter un thème fondamental de la vie chrétienne, de l'histoire biblique, c'est celui du péché. Alors, j'aimerais juste en quelques mots résumer les deux premiers messages, juste vous donner les aspects principaux pour que vous puissiez entrer en cours de route si vous n'étiez pas là les dimanches où j'ai parlé de ce thème et que vous puissiez vous accrocher aux wagons qui sont déjà sur les rails. Nous sommes partis du récit de Genèse 4 où nous voyons le péché dans sa manifestation absolue. À partir du moment où Adam et Ève sont projetés hors d'une réalité, celle d'Éden, dans une autre réalité, celle d'un monde de péché, il va se passer des choses. Et on voit qu'à un moment donné, un de leurs fils, Caïn, qui n'a pas fait juste, est repris par Dieu. Et Dieu lui dit, « Caïn, le péché couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. » Donc on est à la genèse de l'histoire du péché dans l'humanité. Et on voit que déjà Dieu donne des conseils à ce niveau-là. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, de penser que Dieu ne nous laisse pas face à cette réalité seul, mais qu'il intervient déjà dès les premiers instants où l'être humain est confronté à cette terrible réalité. On a vu que c'était un terrible fléau. Le péché est un terrible fléau sur cette terre. C'est une puissance active qui entraîne sans fin, d'une manière incroyable, toute l'humanité. Et nous y sommes tous confrontés, sans exception. On a vu dans le deuxième message que le péché, une fois entré, provoque la mort spirituelle, mais aussi physique, bien sûr, puisqu'à un moment donné, voilà, on retourne à la poussière. Mais l'important, c'est de réaliser qu'il y a une mort spirituelle. Dès l'instant où le péché entre, c'est la mort spirituelle. Pas seulement spirituelle pour les quelques années qu'on passe sur cette terre, mais ça peut être la mort spirituelle éternelle, c'est-à-dire séparée éternellement de Dieu. Donc c'est quelque chose d'hyper grave. C'est le truc sur lequel toute l'humanité devrait focaliser son attention. Et on voit que dans la réalité, on met ce problème de côté puis on s'occupe des phoques sur la banquise ou bien du problème de la pollution dans l'univers. Mais le péché, vous en parlez, les gens ils savent même plus ce que ça signifie. Donc en tant que chrétiens, nous devons savoir ce qu'est le péché. Donc le péché provoque la mort spirituelle. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. On est à nu, on est déshabillé. Ils ont réalisé qu'ils étaient nus lorsque le péché a fait son œuvre dans la vie d'Adam et Ève. Ils sont allés chercher des feuilles de figuier, ils ont essayé de se cacher tant bien que mal. Donc, ils nous privent de la gloire de Dieu. C'est cette présence de Dieu, cette Shekinah de Dieu qui nous entourait, et aussi du poids de Dieu, parce que Dieu peut mettre un poids incroyable dans nos vies. L'être humain cherche à mettre toutes sortes de poids, l'argent, le pouvoir, toutes sortes de choses dans sa vie, pour avoir du poids. Hein? Mais ça, ce sont des poids qui disparaissent au gré des circonstances, au gré des modes, et on se retrouve toujours à nu. Donc, quand on est privé de la gloire de Dieu, on est aussi privé du poids de la sagesse de Dieu, du poids de l'amour de Dieu, du poids de la bonté de Dieu, en fait, toutes ces choses-là. Et puis, on a vu que le péché nous contaminait tous. Hein? On parle parfois de virus qui contamine toute une population, on n'a rien fait pour, mais la réalité, c'est qu'on est contaminé. On le voit maintenant avec les moustiques, là, hein, les moustiques tigres, la Zika. C'est impressionnant. On réalise que tout d'un coup, des millions de personnes peuvent être infectées en quelques secondes. Donc, avant de dominer le péché, il faut bien savoir de quoi on parle. Si je ne sais pas ce qu'est le péché réellement, si je ne sais pas quelle est la notion du péché avec le regard de Dieu, moi, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas comment est-ce qu'on va pouvoir le dominer. Et je pense qu'il est important qu'on comprenne l'histoire qui s'attache au péché. La Bible est remplie de notions concernant le péché. Et on voit qu'elle a des incidences très fortes dans chacune de nos vies, dans toutes les sociétés, tout au long de l'histoire. Dans 2 Pierre, Pierre qui est pourtant un homme inspiré, qui est certainement en lien avec l'Esprit de Dieu, qui a compris des choses, dans la deuxième épître de Pierre, il dit ceci au chapitre 3, verset 16. Il dit que Paul parle de choses difficiles, difficiles à comprendre. Donc Pierre avait de la difficulté à comprendre ce que Paul écrivait parfois. Il est dit qu'il l'a fait pourtant avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il y a des choses difficiles dans l'écriture. Il y a des choses faciles dans lesquelles on entre sans problème. Puis il y a des choses, si on ne fait pas un effort intellectuel, si on ne prend pas le temps d'aller à la rencontre de ce qui est difficile, on va passer à côté, mais on va aussi passer à côté de la bénédiction qui se trouve dans ces choses difficiles. Et ce matin, je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas très facile à comprendre. Moi-même, après 40 ans de vie chrétienne, je ne sais pas, j'ai rempli 20 pages. J'allais dans les livres, j'allais chercher pour essayer, pas seulement de comprendre, mais essayer d'expliquer. Parce que quand je suis confronté à quelqu'un qui est à la recherche, si je ne peux pas lui expliquer simplement des choses compliquées, ça va être difficile. Donc, j'essaye de me mettre au niveau de celui qui n'a pas vraiment compris ou qui ne sait pas, pour qu'à un moment donné, il y ait quelques bribes de compréhension, de clarté. Donc, ce matin, je vais vous obliger à faire un effort intellectuel. Ça ne veut pas dire que votre esprit va vagabonder ailleurs, mais on va aborder un thème par rapport au péché qui n'est pas évident, c'est celui de la loi. Ça, c'est un thème qu'on n'aborde pas souvent. Qui a déjà fait une étude approfondie sur la question de la loi? Merci de lever les mains, elles sont nombreuses. Voyez? Et pourtant, c'est tellement lié à tout le processus du péché dans le monde et de la manière dont nous pouvons nous en sortir que ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de la réflexion. Donc j'aimerais voir avec vous ce matin comment ça se passe de passer de l'état de péché, c'est-à-dire je suis dans un monde de péché, comment je vais pouvoir d'abord dans un premier temps arriver à une conviction de péché. Parce que là, il y a une différence fondamentale entre prendre conscience, on est dans un monde de péché, je commets de temps en temps quelques erreurs ou quelques péchés, des péchés mignons surtout. Mais entre ça et la conviction de péché, il y a un monde. Et ce monde, on doit vraiment pouvoir, ce Rubicon, on doit vraiment pouvoir le passer à un moment donné ou à un autre. Alors d'abord, j'aimerais vous dire une chose, c'est une bonne nouvelle, Dieu n'est pas dépassé par la situation. Dieu n'est pas dépassé par la situation. Il est en contrôle de tout. Même si on a l'impression parfois qu'il est à des années-lumière de ma réalité ou de la réalité de ce monde, je peux vous dire que Dieu contrôle tout. Il n'est pas dépassé par cette situation. Dieu n'est pas pris de court non plus. Quand le cours des événements bascule dans le pire des scénarios, Dieu n'est pas pris de court. Immédiatement après la chute, il met en action un plan B, on dirait nous. Un plan B, il garde l'initiative. Parce qu'il savait qu'en créant des êtres doués d'un libre choix, c'est un peu une folie, créer des êtres qui peuvent dire oui ou non. Mais moi, je n'aurais pas pris le risque. J'aurais fait tous des robots. Je préférais avoir tous des robots. Dans quelques années, il y aura des églises de robots. C'est vrai. L'intelligence artificielle, je peux vous dire que ça va à vitesse grand V. Je viens de lire un livre il n'y a pas longtemps, ce qui se passe aux États-Unis dans certaines grandes firmes qui utilisent tous les derniers moyens sophistiqués de la science, de la technologie et tout. Vous allez voir, ça ne va pas être triste. Bon, je m'arrête là. Donc, Dieu savait qu'en créant des êtres doués d'un libre choix, il prend un risque incroyable. C'est que ces créatures lui disent non, je ne suis pas d'accord. Si tous les couples disaient à un moment donné, est-ce qu'on va faire des enfants? Ouais, mais tu sais, s'ils nous disent non à un moment donné, s'ils deviennent rebelles, on fait quoi? Aïe, non, alors on ne fait pas d'enfants. C'est mieux pas. Ça nous évite beaucoup de problèmes existentiels, ça évite beaucoup de drames, de pleurs. Vous voyez le dilemme? Non, on fait plus d'enfants. Voilà, on s'arrête. Mais Dieu prend le risque. Il crée l'être humain. Et puis, quand la chose arrive, quand Adam et Ève font le choix contraire, encore une fois, Dieu n'est pas dépassé. Il est dit que Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé le monde, qu'il va tout faire pour ramener ce monde qui s'est détourné de lui, cette race humaine détournée de lui, et ça va être le début d'une histoire sainte. C'est ça l'histoire sainte. Ce n'est pas une histoire d'homme, c'est une histoire de Dieu. Donc, il va, dans un premier temps, démontrer son amour absolu. Dieu est épris par sa création. Il est épris par sa création. Il est fou d'amour pour sa création. Si Dieu a tant aimé le monde, moi j'ai tellement de peine à aimer ce monde, Yvette, tu peux me le dire. Non, mais c'est vrai. Il y a des jours où je me dis, Seigneur, mais voilà, je suis bientôt à la retraite, mais j'aimerais tellement être près de toi. Mais c'est vrai, ce monde nous fatigue à l'extrême. Tous les jours, on aimerait entendre des bonnes nouvelles. Et on nous ressasse tout ce que ce monde fait. Mais c'est un peu l'horreur. Et parfois, on met option musique parce qu'il y a des chants. Puis encore, dans les paroles, ça ne va pas très loin non plus. Donc Dieu va pouvoir démontrer dans cette situation précise combien il t'aime. combien il aime la race humaine, à en mourir. Là, je saute déjà, hein, je vais déjà plus loin. Mais à en mourir. Dieu va pouvoir montrer aussi la force de son alliance. Parce que quand Dieu s'allie aux êtres humains, lui, il fait alliance, il est sérieux. Et quand est-ce qu'une alliance a son poids? Ben, c'est quand l'autre est en difficulté. Si un pays fait alliance avec un autre et que ce pays est attaqué, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ben, débrouillez-vous, allez, on est avec vous, hein? On vous envoie des cargaisons de matériel de guerre, mais allez-y vous, nous on n'a pas envie de se faire tuer, pourtant on a fait alliance. Dieu dit non, j'ai fait alliance avec l'être humain, je vais aller là où l'être humain est tombé. Je vais aller là où l'être humain se trouve. Donc il va pouvoir montrer la puissance, la force de cette alliance. Et puis, troisièmement, il va régler le compte, une fois pour toutes, à Satan, qui agit comme un détonateur dans cette histoire. Parce que non content d'entraîner le tiers des anges dans sa rébellion, il trouve le moyen d'entraîner dans sa chute la race humaine. Alors ça nous dépasse un peu. Vous voyez déjà là, mon intelligence, elle est un peu court-circuitée. Ben, mais pourquoi Dieu t'a permis ça? Mais pourquoi t'as fait ça comme ça? Moi, j'aurais fait autrement. Ben non, ça s'est passé comme ça. Et le fait de regarder les choses en face, telles qu'elles se sont passées, nous aide aussi à trouver les moyens de s'en sortir. Si on passe à côté de ce qui est la vérité, eh ben on sera toujours dans le mensonge ou dans l'erreur. Et c'est déjà un effort intellectuel de dire, bon, ça dépasse mon entendement, mais je choisis d'aller à la rencontre de ces vérités. Si je ne fais pas le choix, je passe à côté. Ou je reste devant une vérité, je peux rester toute ma vie devant une vérité, elle ne se découvrira pas. Je ne la vivrai pas, je ne l'intégrerai pas dans ma réalité quotidienne. Et ça pose de gros problèmes. Donc, Dieu va manifester son autorité dans ce monde de rébellion dans lequel Satan nous entraînait. Et Genèse 3.15, on est aussi tout au début de l'histoire du péché. Genèse 3.15 nous dit, enfin Dieu dit, « Je mettrai inimitié, ça veut dire hostilité, haine, aversion, entre ta postérité et sa postérité. » Donc la postérité d'Adam, les descendants d'Adam, à un moment donné, ils seront en aversion contre le péché, en aversion contre Satan, en hostilité, en haine. Puis il dit, « Celle-ci t'écrasera la tête. » Donc, la postérité d'Adam, Jésus. Voilà. Donc, la tête, c'est la domination. Hein. Quelqu'un qui est à la tête de quelque chose, c'est quelqu'un qui domine. Hein. Eh bien, Jésus va écraser la tête du serpent et lui blessera, bien sûr, le talon. Donc, Dieu promet la défaite. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. Hein. Encore une fois, Dieu n'est pas pris de court dans toute cette situation. Et il va nous offrir, par amour, le moyen d'échapper une fois pour toutes à la domination du péché. Ça, il faut vraiment qu'on le réalise. Jésus n'est pas seulement venu comme ça, voilà, pour nous délivrer d'un petit péché, encore des péchés mignons, ou bien de quelques petites erreurs de parcours. On va voir que c'est beaucoup plus profond que cela. Et si nous ne comprenons pas la profondeur de la réalité du péché dans l'humanité, encore une fois, on n'avance pas. On n'avance pas dans sa vie, on n'avance pas dans l'Église, on n'avance pas dans ce monde. Alors, on va voir comment ce que Dieu va faire pour nous faire passer de l'état général de péché à celui de la conviction de péché. Hein? Pour y parvenir, il faut que l'humanité, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire toi, prenne conscience de son état. Il faut qu'elle soit amenée à la conviction de péché. D'ailleurs, vous verrez, c'est très intéressant de voir qu'à un moment donné de l'histoire, Jésus dit, « Je vous enverrai l'Esprit Saint. » Puis qu'est-ce qu'il va faire l'Esprit Saint? Il va nous convaincre de péché. Donc, vous verrez, il y a une suite logique dans ce qui s'est passé tout au long de l'histoire de la loi au milieu des êtres humains. Donc, Adam et Ève ont transgressé. Et on sait que transgresser, c'est quelque chose de grave. Qui a déjà transgressé une loi? Vous pouvez baisser la main. Je vous ai vu, je vous pardonne. Non. Voilà. Alors, bien sûr qu'ils sont conscients. Il y a eu un tel bouleversement, j'entends. Ils ont encore certainement une notion de ce qu'ils vivaient dans la présence de Dieu en Éden, dans ce lieu de délices, puisque le mot Éden signifie délices. Il y a une conscience qui est là. Donc, ils sont conscients qu'ils ont commis une faute grave qui a provoqué des changements brutaux dans leur vie. Brutal. Hein? Bon, bref. Hein? Mais on a l'impression qu'ils sont conscients à ce moment de l'histoire d'être devenus des êtres ils sont pas conscients qu'ils sont devenus des êtres dans lesquels le péché domine. Vous voyez la différence? On n'y est pas encore tout à fait, mais des êtres dans lesquels le péché domine. Le péché couche à ta porte, mais toi domine sur lui, parce que lui domine sur toi autrement. Hein? Donc, on a l'impression qu'ils ne sont pas convaincus d'être une race de pécheurs. D'avoir fait une faute, oui, mais d'être devenus des pécheurs, on a l'impression que ce n'est pas très clair. En tout cas, moi, quand je lis les textes, là, au début de Genèse, voilà. Parce que Ève est consciente d'avoir conçu avec l'aide de l'Éternel un enfant. Ils font des offrandes à Dieu, un des produits de la terre, l'autre de ce premier-né de son troupeau. On voit Dieu dialoguer avec Caïn. Donc on a l'impression que, qu'est-ce qui se passe là? C'est un peu flou, c'est pas très clair. Donc cette prise de conscience ne peut pas avoir lieu dans ces moments-là. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'il n'existe pas encore à ce moment-là de loi qui révèle la transgression. S'il n'y a pas de loi, je ne peux pas transgresser quelque chose qui n'existe pas. Et écoutez bien ce que l'apôtre Paul dit justement dans Romains, en 3:25b, c'est la deuxième partie du verset. Il dit que Dieu avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Bizarre. Si quelqu'un peut vraiment m'expliquer ce que ça signifie, ça. Donc il y a eu un temps où Dieu a fait comme, je ne veux pas dire comme si de rien n'était, mais ce n'est pas évident, ce n'est pas clair. C'est comme si Dieu laissait faire. Il n'y a pas de loi. Il n'y a rien qui dit tu transgresses, tu fais faux. Et cela va du péché originel jusqu'à la proclamation de la loi sur le mont Sinaï, cette loi qui a été donnée à Moïse, au peuple d'Israël, et au travers du peuple d'Israël, à toutes les nations. Comme si Dieu laissait faire. Et là, je me suis dit, peut-être pour que les hommes prennent conscience de l'état dans lequel ils se trouvent, ces conséquences effroyables du péché, dès le départ, c'est parti fort, hein? C'est parti sur un meurtre. Ce n'est pas juste je te tire la langue, ou bien je te donne un coup de pied dans les tibias, ou bien je te critique, ou je te jure. C'est le premier assassinat. Ça part vite, le péché, il ne te laisse pas de temps. Hein. Quand il peut t'entraîner aussi loin que possible, il va t'entraîner aussi loin que possible. Et puis là, on a l'impression que Dieu laisse faire. Et il est dit que c'est le temps de la patience. Bon, allez-y, moi je ne regarde plus. Attends, je vais prendre l'air un peu. Faites ce que vous voulez, débrouillez-vous. Montrez-moi que, et ça devient de pire en pire sur cette terre. Hein? Pierre en parle aussi, 3:28, la patience de Dieu se prolonge au jour de Noé. Hein? Donc, à ce moment-là, la réalité du péché existe, les êtres humains en sont certainement conscients, et Dieu va faire en sorte que toute l'humanité, à partir de là, soit enfermée dans le péché. Alors, si vous avez une box comme ça, en carton, toute l'humanité dedans, et Dieu met tout ce beau petit monde dans cette box pour qu'ils n'aient pas la possibilité d'échapper. Mais vous verrez que c'est par amour qu'il le fait. Ça peut paraître fou, ça peut paraître inconscient, mais on met tout le monde dans le même panier pour que les hommes, les êtres humains, découvrent dans le fond que, waouh, ben la situation, elle est vraiment sérieuse. On n'arrive pas à changer la situation. On ne trouve pas les moyens. On n'a pas la force. Ou la force de faire le mal, pas de problème. Mais la force d'aimer Dieu, on ne l'a pas. La force même de chercher Dieu, on ne l'a pas. Enfin, tout est en superficie comme ça. Donc Dieu va tout enfermer dans le péché. C'est la parole de Dieu qui le dit. Mais on n'est pas forcément convaincu qu'on est des pécheurs. Que notre nature profonde est atteinte. Irrémédiablement. Ce n'est pas juste une maladie passagère. Hein? Quand il y a une grippe ici, on dit, bon, 4-5 jours, on est au lit, on a de la fièvre, mais ça passe. Le péché ne passe pas. Il est là. Il est ancré. Et je peux vous dire que... Donc, on est conscient de nos fautes. On est conscient de nos fautes. Mais est-ce qu'on est conscient qu'on est des êtres pécheurs? Je vais insister ce matin là-dessus. Désolé, mais là, pour moi, il y a une pierre angulaire. Si je comprends ça, je vais pouvoir continuer dans, parce qu'il y a une suite glorieuse, une suite généreuse, une suite divine. Mais si je ne comprends pas ça, je vais me contenter d'être un pécheur. Voilà, ben, je demande pardon, ce n'est pas grave. Voilà, Seigneur, voilà, tu as donné ton sang, mais oui, tu me laves et me purifies. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. Dieu veut aller beaucoup plus loin que ça. Il veut qu'on domine le péché. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va promulguer une loi. Tiens, c'est étonnant, hein? Il promulgue une loi. Bon, 10 commandements, ça n'a pas l'air d'être la mer à boire. 10. Bien que, on l'a dit dans le message précédent, dans la tradition juive, on trouve cette parole qui dit « Dieu les a vêtus d'un seul commandement et ils s'en sont dévêtus. » Un seul. Et Dieu avait juste dit « Allez, vous pouvez tout faire ce que vous voulez, mais vous ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Ben si, ils y ont touché. Voilà, un seul commandement, ils se dévêtent de ce commandement. Donc là, il en donne 10. Mais ces commandements-là vont obliger la race humaine à se situer par rapport à ça. Écoutez ce que Paul dit dans Romains 5, 20. « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. » Si vous lisez, alors c'est peut-être agréable de lire dans Parole vivante, ce genre de thème, si vous l'abordez, prenez la parole vivante, parce qu'elle dit les choses de manière compréhensible. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher des livres de haute théologie pour comprendre la question. Donc là, c'est vraiment super. Elle dit, elle se borne à faire connaître le péché. Son vrai rôle est de nous le rendre conscient. Voilà. Le but de la loi, c'est de nous faire prendre conscience qu'on est pécheur. Pas seulement qu'on commet des péchés. Vous comprenez la différence? Ma nature profonde est une nature de péché qui passe à côté de la volonté de Dieu, qui s'oppose à Dieu, qui évite Dieu, qui cherche toutes sortes d'excuses pour ne pas le rencontrer, pour ne pas faire sa volonté. Ça, c'est la nature profonde du péché. Et Paul dit, la loi intervient. Et ça, je peux vous dire, c'est une grâce de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. On n'aime pas les lois. Qui c'est qui aime les lois? Qui aime la loi de Dieu? Braf, toutes les mains se lèvent. Non? Je vais vous prendre une image très simple, très concrète, pour comprendre ce qui va se passer. Imaginez, ils ont 30 000 personnes à la Chaux-de-Fonds. 30 000 personnes, il y a des gens qui se déplacent en voiture, d'autres en moto, d'autres en vélomoteur, d'autres avec les planches à roulettes, avec des trottinettes. Il y a des gens qui marchent, il y a des animaux, il y a des poussettes. Et il n'existe pas de réglementation dans toute la ville. On ne s'en rend même plus compte. Mais imaginez la ville de Chaux-de-Fonds sans réglementation. Chacun fait comme il veut. J'ai envie de traverser le pod à 120 à l'heure. Attention, on arrive. Et on traverse n'importe où, les poussettes, les vélos, au bout d'un moment, ça poserait certainement des gros problèmes, n'est-ce pas? Il n'y aura plus 30 000 personnes, effectivement. Donc, qu'est-ce que va faire le conseil de ville? Ils auront pris une bonne décision. Eh bien, ils vont décréter une loi de la circulation. Ils vont mettre des stops, ils vont mettre des interdictions de ceci, des interdictions de cela, des feux rouges, des marques visibles pour savoir où est-ce qu'on va traverser. Tu traverses là, tu fais attention, il y a une ligne jaune. On sait même dans quel sens on doit aller, on doit marcher. C'est ça, exactement. Et à partir de cela, tout contrevenant peut être sanctionné. Mais s'il n'y avait pas de loi, si chacun pouvait faire ce qu'il a envie de faire, vous ne pouvez pas courir après quelqu'un et dire « Eh oh, t'as roulé à 120 à l'heure dans Chaux-de-Fonds, bon, il y a eu 10 morts, mais c'est bien, quoi, voilà, t'as essayé au moins, t'as essayé d'en inviter quelques-uns, c'est super. » Non, tu as roulé en dessous de 50, et il n'y a pas longtemps, ça fait flash chez moi, Nicolas, il est où Nicolas? Coûte cher, Donc, toute personne contrevenant à la loi, aux règles de la circulation est sanctionnée. Et ça peut coûter cher. Qui peut s'élever contre cette décision? Qui est contre cette décision? Levez la main. peut faire une pétition, on peut aller, voilà, il y a une main qui s'est levée, il se cache. On peut aller auprès du conseil de ville, lui dire, écoutez, c'est injuste, nous, on ne veut pas de loi. Faites-nous confiance, on va y arriver. Alors, je vous donne juste quelques chiffres quand même pour vous montrer. Hein. En Suisse, écoutez bien, en 2014, donc ouais, la Suisse a évolué, hein, on n'est plus autant des... Hein, voilà. 18 000 accidents, rien qu'en Suisse, 18 000 accidents, 243 morts, 4 043 grièvement blessés et 17 500 blessés. Vous voulez connaître les chiffres pour la France ? Depuis 1945 à nos jours, il y a eu plus de 500 000 morts en France. 500 000. 18 000, c'est le pic, 18 000 personnes tuées en 1972. 18 000 personnes en France. Et près de 500 000 accidents en 2013. Et vous voulez me dire que vous savez conduire ? Et vous voulez me dire que vous êtes capable de vous débrouiller par vous-même, que vous n'avez pas besoin de loi, que vous n'avez pas besoin de poteaux signaux, hein, signalisateurs, vous n'avez pas besoin de stop. Si, on en a besoin. Et on le démontre. On démontre là, par là notre bêtise humaine, nos inconséquences, notre orgueil. Ça, c'est la réalité. Vous comprenez maintenant pourquoi la loi va s'inscrire dans la réalité humaine ? Est-ce que vous discernez maintenant le fossé qu'il y a entre être conscient qu'on commet de temps en temps une faute ou l'autre et d'être la source même de ces fautes ? L'apôtre Paul a traduit cela d'une manière extraordinaire. Si vous n'avez jamais lu ces passages, je vous demande vraiment instamment de les lire et de les méditer. Alors, je ne peux pas tout lire parce que ça prendrait trop de temps, mais en Romains 7, 18, il traduit ça d'une manière magistrale. Magistrale. Il dit, « Par expérience, je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans mon être naturel, n'habite rien de bon. Ce n'est pas la bonne volonté qui me manque, c'est plutôt la force de réaliser mes bonnes intentions. Je n'arrive pas à accomplir le bien que je me propose et je commets malgré moi le mal que j'étais pourtant décidé à éviter. » Qui c'est qui a déjà été confronté à ça ? Allez, soyez humbles. Voilà. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il dit, au verset 23, parce que je ne vais pas tout lire, « Donc mon être intérieur adhère de tout cœur à la loi divine. Il en approuve joyeusement les exigences. Cependant, je suis obligé de constater en mon corps l'empreinte d'une autre loi. Mes facultés humaines sont régies par un principe opposé à celui de ma raison. » Et qui me met sans cesse en conflit avec la loi de ma conscience. Et cette force mauvaise me domine, si bien que je me retrouve prisonnier sous la férule du péché qui est à l'œuvre dans mes membres. C'est moi qui prêche ce matin. On y arrive, gentiment. Mais vous voyez, ça devrait être une prise de conscience générale de l'humanité. Au lieu de faire des grandes conférences sur je ne sais pas tout quoi dans le monde, faisons une conférence sur le problème du péché. Lisons ces passages-là. Vous croyez que ces grands hommes d'État, ces chefs religieux, tout ce qu'on voudra, tiennent devant une parole comme celle-là, alors qu'on est environné d'horreurs autour de nous. Et ces horreurs, ce n'est pas des robots qui les commettent, c'est nous. Nous sommes responsables de ces horreurs qui se commettent tous les jours dans ce monde. Cette vérité est peut-être dure à entendre, elle est difficile à accepter, c'est la loi qui me le révèle. Alors là encore, je peux dire, ouais, exagère un peu, Paul. On peut discuter avec. Hein, on peut même monnayer, peut-être. Il y en a même des qui ont inventé le salut par l'argent. Enfin, voilà, on paye des trucs pour être sauvé. Bref, comment est-ce que je me situe par rapport à cette réalité ? Si je me tiens droit dans mes baskets face à ce qui vient d'être dit, si je réfléchis un petit moment, est-ce que je peux dire seulement, oui, j'ai commis quelques fautes graves. Oui, c'est vrai, c'était pas beau. Ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Est-ce que tu as déjà connu à un moment donné dans ta vie une conviction de péché ? Parce que là aussi, ça peut être très subtil. On entre dans une église de réveil. On nous annonce l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu. Ah, il pardonne tous mes péchés, il me lave par son sang, il me purifie, etc. etc. Et je n'ai même pas compris avant cela que j'étais un pécheur. Que tout cela était la résultante, la conséquence d'un état gravissime dans lequel je me trouve. Ah, il y a des gens qui commencent de grandir spirituellement, qui n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris ça. Alors, ce n'est pas une accusation que je fais. Hein. Je ne leur jette pas la pierre. Hein. Mais ce n'est pas dans ces conditions-là que tu vas pouvoir entrer dans ce qui est préparé après la loi. Tu vas le vivre de manière inconsciente. C'est quand j'ai été convaincu de péché que je ne suis vraiment, comme le disait l'apôtre Paul, je ne vais pas utiliser le mot, mais que là je réalise combien j'ai besoin alors de la grâce de Dieu. Combien j'ai besoin. Alors, je vais terminer. C'est incroyable le rôle de la loi. Elle ne vient pas seulement planter ses poteaux d'interdiction, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, parce que là aussi ça serait un piège. Hein. Et on sait qu'il y a des gens qui sont entrés dans un pur légalisme, ils vivent au gré des « tu dois » et des « tu dois pas ». Au gré des poteaux indicateurs, au gré des marques, partout. On cherche même ça et on essaye, même le peuple juif, hein, il faut le reconnaître, c'est encore un essai, une tentative de démontrer qu'on est capable de répondre aux commandements de Dieu. Alors non seulement il y en a 10, mais eux ils en rajoutent 700 combien 700 et quelques. Vous vous rendez compte? Pour démontrer à Dieu qu'ils ont peut-être capables quand même d'accomplir la loi. Mais vous voyez, c'est de la folie. C'est de la folie. Et on bénit le Seigneur pour ce temps de révélation dans lequel le peuple juif entre maintenant avec tous ces juifs messianiques qui commencent d'adhérer au Messie, qui commencent de comprendre que stop, les gars, vous pouvez vous arrêter. Le Messie est arrivé. Laissez ça. Entrez dans la grâce, etc. Hein? Donc, je vous montre encore ce que la loi va faire. Et même si vous l'avez déjà vécu, ça va vous aider à comprendre ce que vous avez vécu peut-être sans le comprendre. Ça va peut-être vous aider à le partager avec d'autres. Le rôle de la loi, c'est de pousser le bouchon aussi loin que possible. Elle nous pousse, la loi, dans une zone d'inconfort absolu. Elle ne nous laisse pas de répit. Après m'avoir convaincu de mes transgressions, elle n'en reste pas là. La loi me condamne. Comme je l'ai dit, si vous roulez à 120 dans la ville de Chaux-de-Fonds et vous vous faites attraper, le policier ne va pas simplement dire « Oh, monsieur, madame, c'est pas beau ce que vous avez fait. Hein, là, vous ne faites plus. Hein, c'est la dernière fois. Hein. » Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va sortir son petit calepin, il va prendre votre permis de conduire, il va tout noter et quelques temps plus tard, vous allez être jugé. Vous allez passer devant le juge et le juge va vous condamner. Peut-être à des milliers de francs d'amende, peut-être à un retrait de permis, peut-être à de l'emprisonnement s'il y a eu des blessés graves, des morts. Mais c'est du sérieux. C'est du sérieux. Donc la loi, elle va vous pousser, elle va me pousser dans mes derniers retranchements. Elle me condamne à la mort et au jugement. Ça, vous pouvez le lire dans Galates 3:10. Maudit soit quiconque n'accomplit pas intégralement tout ce qui est écrit dans la loi. Ce n'est pas parce que je m'arrête au feu rouge, ce n'est pas parce que je m'arrête au stop que la police va dire ben, « c'est déjà bien, vous avez fait ça, alors vous pouvez faire ce que vous voulez ailleurs ». Chaque fois que je transgresse un commandement, une loi, paf, c'est la justice. Autrement, on dirait « ah ouais, toi t'es un bon gars, allez, on passe par-dessus. Ah ben toi, je te fais payer juste, je ne sais pas, 50 francs au lieu de 5 000 ». Ça ne joue pas. Il y a une justice, il y a une loi qui est là pour tout le monde. Suisse et français, surtout pour les Français. Donc, il n'y a plus d'issue. Vous voyez pourquoi Dieu nous enferme là-dedans? On peut essayer de bousculer le mur. On peut essayer de faire des trous au plafond. On peut essayer de creuser. Mais on ne s'en sort pas. Dieu a tout enfermé sous le péché. Il a mis une loi. Pouf, terminé. Et ce n'est pas fini. Vous en voulez encore? La loi est à mes côtés jour et nuit. Quand vous dormez, la loi, elle continue d'agir. Elle est là jour et nuit. Elle ne nous laisse aucune chance de nous en sortir. Dans la Grèce antique, on avait ce qu'on appelait des précepteurs ou ce qu'on appelle aussi un gouvernant. C'est-à-dire que l'enfant petit, on mettait à côté de lui une personne, souvent un esclave, qui était tout le temps autour de l'enfant jusqu'à ce qu'il ait atteint la majorité. Il lui collait à la peau. Alors, ça devait être énervant, hein? C'était la nounou. Hein? Elle lui disait ce qu'il devait faire, pas faire. Elle l'amenait à l'école, elle contrôlait s'il faisait les devoirs, elle contrôlait s'il ne disait pas de gros mots, elle contrôlait tout. Et chaque fois qu'il y avait un dépassement, une transgression, hop, voilà, le précepteur lui disait stop, ça ne joue pas. Hein? Donc, Paul dit, la loi, c'est comme ça. Elle est avec vous tous les jours. Et quand vous faites une quand vous commettez une transgression, qu'est-ce qui se passe en vous? À moins d'être le pire des zouzous, là, vous dites, oups, il y a une culpabilité qui vient. Ouh, c'est pas bien. Allez, j'y vais quand même. Non, c'est pas bien. Ben, une fois seulement. Non, c'est pas bien. Elle ne vous laisse aucun répit. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Si j'avais pas cette loi, tu me plais pas. Allez, je te descends. Le Far West. Je te descends. Allez, toi. Mais c'est ça, le Far West. Hein? Béni soit Dieu pour la loi que tu as donnée à la race humaine. Et jusqu'à ce que je sois convaincu d'une chose, comme l'apôtre Paul dit, misérable que je suis. Misérable que je suis. Ça vous est arrivé de vivre ça? Moi, je ne vais pas vous obliger à vous sentir misérable. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut produire cela. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut vous rencontrer de telle manière que vous n'avez plus d'issue. Le carton, il s'est rétréci, béni soit Dieu. Et à un moment donné, c'est où je fais péter la baraque, ou je reconnais, humblement. Et c'est une grâce de pouvoir vivre ce moment-là. Waouh ! J'arrête. Je lâche prise, comme dirait Leïla. J'abandonne la partie. Je me laisse faire. Je me laisse tomber, etc. etc. Ça, c'est un dépouillement extraordinaire. Qui me délivrera de ce corps de mort ? De l'emprise de ma nature pécheresse, de l'esclavage, des mauvais instincts. Qui? Alors, on n'ira pas aussi loin ce matin, mais quand j'en arrive là, quand j'en arrive à ce but quasiment ultime, où est-ce que cette attitude va me renvoyer? Ou bien, où est-ce que Dieu va me renvoyer? On parle encore sous la loi, hein? Il va me renvoyer où, quand j'ai compris ça? On est sous la loi, on ne parle pas encore de la croix. Ça viendra. Hein? Mais elle me renvoie à la promesse de Genèse 3,15. Il écrasera la tête du serpent. Il y a une promesse là-dedans qui... Vous voyez, c'est comme un petit bourgeon. Il n'a pas éclaté encore. Il n'a pas révélé toute sa beauté, sa puissance, sa grandeur, les fruits. Mais la loi me renvoie à la promesse de Genèse 3,15. Et c'est là que je me dis, waouh! Là est la solution. Le Messie doit venir. Je ne peux pas par moi-même transformer mon état de pécheur. Donc ça devrait nous amener, et la loi, elle va encore aller encore un peu plus loin. Elle va nous amener à crier à Dieu, « Seigneur, envoie-moi le Messie, révèle-moi le Messie, parce que j'y arrive plus. » Alors là, vous avez atteint le but. Là, vous y êtes. Là, vous êtes sur un terrain saint. Vous pouvez enlever vos godasses. Vous pouvez tout enlever. Vous pouvez vous mettre à nu, vous n'avez même pas besoin de garder votre ceinture de feuilles de figue, parce qu'il y a déjà un vêtement qui est prêt pour vous. Bon, cette fois, je termine. Oui, grâce soit rendue à Dieu, dira Paul. Hein? Grâce soit rendue à Dieu. Quand cet homme religieux, qui avait grandi au pied de Gamaliel, qui connaissait la loi sur le bout du doigt, alors lui, il connaissait, hein? Quand cet homme découvre qu'à un moment donné, il n'y arrivera pas par lui-même, qu'il doit passer par cette conviction de péché, quand la loi peut lui dire « Saul, Saul, arrête ton cirque, arrête, tu n'y arriveras pas, je vais te compresser. » Et Saul a été compressé. Hein. C'était la camisole de force, hein. Il ne bougeait plus. Alors qu'avant, ça bougeait dans tous les sens, il allait arrêter des chrétiens, il les mettait en prison, c'était le roi, hein. The King on the Chair, rien. Oh ! Et là, il plie le genou, il est convaincu et il s'arrête. Dieu merci, il existe une issue. Donc il le renvoie à cette promesse de Genèse 3:15. Il la connaissait. Lui, il la connaissait. Et c'est là qu'il découvre, en fait, la solution à tout son problème. Alors, on va s'arrêter là ce matin. Voilà comment Dieu nous conduit de l'état général de péché à cette conviction de péché, à la prise de conscience salutaire de mon état personnel. En es-tu convaincu? Voilà comment, par la loi, Dieu va nous conduire à l'essentiel, à trouver une issue heureuse et éternelle. Alors, on en parlera dans... Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce thème-là. On en parlera dans les prochains messages. Mais ce matin, si nous n'avons pas encore tout compris, soyons déjà reconnaissants de la manière dont Dieu s'y prend, lui qui est en contrôle de toutes choses, pour nous amener à l'essentiel. Pour que la loi, cette loi qu'il a promulguée, qui est bonne, puisse faire son œuvre au plus profond de moi-même, pas en superficie, mais en profondeur dans ma vie. Demandons-lui cette simplicité de l'enfant pour accepter, parce que nous, les adultes, on est tellement forts pour tourner autour de la parole de Dieu, pour la regarder depuis en haut, depuis en bas, regarder ce qu'il y a dedans. Dis non, entre, arrête. Un enfant, il entre, il fait confiance, il dit ok. Et c'est là qu'on va en découvrir les fruits extraordinaires. Demandons-lui la force d'accepter cette œuvre pénible. C'est comme un accouchement. Qui c'est qui a déjà accouché là? C'est comme un accouchement, c'est des douleurs de l'enfant, mais c'est vrai. Quand la loi de Dieu commence son œuvre, l'Esprit de Dieu commence son œuvre en nous, c'est des douleurs de l'enfantement. Parce que cette vieille nature qui est là en nous, elle ne veut pas lâcher prise. Elle résiste. Elle résistera jusqu'au bout. Mais à un moment donné, c'est la dernière contraction. Et là, on le sait. Et là, on sait ce qui arrive au plus profond de nous-mêmes. Alors, on s'arrête là. C'est là l'essentiel, la clé de l'espérance que Dieu veut nous donner, de vivre enfin libre. Oui, grâce soit rendue à Dieu, il y a une issue, il veut nous rendre libres.